Voilà, c'est parti pour une nouvelle édition de Page en Partage. Alors, en l'absence de Sophie, dont j'espère qu'elle va revenir bientôt, on reçoit Jean-Louis Payette aujourd'hui. Jean-Louis Payette qui a fait un yabécédaire. Et je dis bien yabécédaire. Bonjour, monsieur Payette.
Bonjour.
Alors, ça fait plaisir de vous voir. On s'est rencontrés par hasard lors d'une soirée poétique à l'Entre-deux, il y a quelques mois.
Hein,
une soirée organisée à la médiathèque de l'Entre-deux. Exact. Et alors, il y avait également une dame qui habite à l'Entre-deux. Vous êtes de l'Entre-deux.
Madame
également.
Colombel.
Oui, qui fait des bouquins formidables, hein, Madame Colombelle, on la salue au passage. Mmh. Et puis voilà, moi j'étais venu un peu en visiteur, en voisin, hein, puisque moi c'est la ravine des Cabris, alors j'ai un peu triché.
Bonjour,
donc
voisin.
C'était quelque chose de très sympathique, hein, on en profite pour dire bonjour à nos amis de l'Entre-deux,
bonjour les Entre-deux.
À la médiathèque, aux gens de la médiathèque qui font un boulot formidable. Mmh. Il y a d'ailleurs plusieurs sites à l'Entre-deux, où il y a de la culture, hein, il n'y a pas que la médiathèque, il y a également la salle de cinéma, en face, il y a Vavangard aussi.
Vavangard, exactement.
Voilà. Donc, mais on est là pour parler de vous, monsieur Payette. Alors, vous êtes né à l'Entre-deux.
Pas précisément, j'ai vécu à l'Entre-deux toute ma vie, mais je suis né à Saint-Pierre. Et on a vécu quelques années à Petite-Île. Et à l'âge de 5 ans, mon père a acheté une maison à l'Entre-deux, où nous avons vécu, mes frères, mes sœurs et moi, tout au long de notre vie, quoi, jusqu'à maintenant.
Voilà, donc vous êtes de la génération des baby-boomers, comme
baby-boomer,
on dit maintenant.
Hein, exactement, voilà, des années, je m'en flatte.
Vous avez bien connu donc, les années 50, 60, et puis les années suivantes à La Réunion. Puis on va voir que vous n'avez pas forcément des goûts de vieux, hein. Je peux dire vieux.
Ah, si
parce
c'est
que
un compliment, je le prends.
Vous avez le même âge que moi, alors donc il n'y a pas de complexe à avoir.
Voilà.
Et alors c'est bien parce que même vous avez les choix musicaux qu'a fait Jean-Louis Payette, qui ne sont pas du tout aussi rétro qu'on pourrait le penser. Mmh. En tout cas, c'est de qualité. Alors, yabécédaire, évidemment, le jeu de mots. Hein.
Le jeu de mots entre yab. Et ensuite, un abécédaire, effectivement, un livre qui commence avec des histoires qui commencent par les lettres A et qui se prolongent tout au long de l'alphabet jusqu'à la lettre Z. Voilà.
De A jusqu'à Z.
Et Z comme oreille aux élections, comme vous voudrez.
Ça commence A comme avant-propos. Alors, oui, carrément.
Peut-être.
Alors, vous parlez justement de la graphie que vous avez utilisée, qui n'est pas la graphie, disons, créole qui a été homologué, on va dire, par Carpana Marimoutou, Axel Gauvin, et donc les...
Ah, mais je les respecte, j'aime bien aussi. Hein.
Oui, j'aime bien.
J'ai jugé que ce livre qui parle justement de mes yabs et de la yabrie, ça s'accommodait mal justement avec une graphie en KW. Voilà.
Oui.
Mais je la comprends, je la lis parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais pour ce livre en particulier, en fait, pour les histoires que je raconte qui sont des histoires déo, en fait, ça ne s'accordait pas avec le KW. Mm-hmm.
Oui, et puis il y a également les mêmes. On voit que les expressions créoles, quelquefois, ne sont pas les mêmes d'une région de La Réunion à une autre.
Ah, vraiment.
Mais pour le langage, pour la façon de prononcer, c'est pareil.
Également.
Alors donc, voilà, par exemple, vous citez un exemple, hein, je ne peux pas m'empêcher de le dire, qu'on a envie de lire le bouquin, quand on commence, on ne s'arrête plus. Hein. Alors, je ne vois pas Mame Auguste dire Missa fait cuit manger, alors qu'elle n'a son dîner pour faire cuire.
Voilà.
Il y a une autre manière de mettre
ça.
Les
oui,
mots de...
Exactement.
Là, c'est les mots. Hein.
J'entendais justement cette façon de parler lorsque je suis arrivé pour la première fois à Saint-Denis, où j'étais interne. Et donc, j'étais entouré là d'autres personnes, d'autres jeunes de mon âge, en fait, mais qui venaient de tous les coins de l'île et qui ne s'exprimaient pas du tout de la même façon que moi. Mm-hmm. Et là, ça m'a vraiment surpris. Et c'est d'ailleurs la première fois à 11 ans que j'ai appris que j'étais un yab. Voilà. On m'a parlé du yab, mais je ne savais pas qu'on s'adressait à moi, quoi. Voilà.
Les yab, alors il y a plusieurs expressions pour décrire les gens des hauts, mais enfin celle-là, elle est acceptée par tout le monde. Hein.
Celle-là, j'allais dire presque que je la revendique. Parce qu'on parle également de yab qui sont un petit peu plus mal dégrossis, en fait, et qu'on appelle les youls.
Des comment ?
Les Youl, Youl.
Oh là là, ouais.
On a encore le plus mal poli des Yab, non, vraiment pas, et qu'on appelle le Maoul, c'est-à-dire quelqu'un
Maoul.
Qui a vraiment pas de manière, quoi. Voilà.
Maoul, mais enfin bon, je crois que c'est Anne Chenet qui a fait un livre, Rivage Maoul.
Ouais, il me semble que c'est un mot malgache.
C'est pas forcément péjoratif, pas de jaune également. Pat Alors, John, Pat j'adore. Il y a un groupe qui s'appelle comme ça.
Exactement, et que j'adore, bien entendu.
Ça, ça, oui. ça m'a toujours rappelé les Américains, oui. qu'on appelle les rednecks, les coups rouges. Parce que c'est des paysans qui ont le cou rougi par le soleil du Texas, ou d'ailleurs, et du sud de des USA. Ouais. Et bien, nous, chez nous, on a les pattes jaunes parce que c'était à force de marcher dans.
Dans la terre, dans la boue, voilà, oui, c'est ça.
Voilà.
Et marcher pieds nus, en fait. Hein. Mmh. Voilà.
Alors, donc, on revient à la présentation de l'histoire de M. Payette. Vous avez recueilli toutes ces histoires à travers ce que vous ont dit vos parents.
Mes parents.
Vous en avez glané également vous-même quelques-unes.
Exactement.
Alors, c'est vrai qu'on se dit, bon, en ce moment, les récits de vie sont très nombreux depuis quelques années à La Réunion, même depuis les années 70.
Oui.
Plein de gens écrivent. Alors, je me souviens des années 70 avec déjà Tretard, Gauvin et tous ces gens-là qui ont enfin remis à l'honneur à la réunion, la petite réunion, pas celle des gros, mais celle des petits, des obscurs, des sans grades. Et puis ça a continué, puisque maintenant y a plein de gens qui continuent à écrire des souvenirs de vie, où quelquefois, alors bon, on se dit ça va toujours être un peu pareil, mais non, pas du tout, parce que c'est tellement riche que chacun, d'abord, a son propre style, et puis chacun également a ses propres anecdotes qui sont pas du tout quelquefois les mêmes, ou pas vues de la même manière.
Et là, justement, alors, dans ce livre, j'ai pris les histoires que racontait mon père. Donc mon père, pour vous situer un petit peu, il est né en 1906, donc ça remonte un petit peu, ma mère est 20 ans plus tard, et donc les histoires qu'il nous racontait à la table familiale étaient différentes dans le temps et différentes également par les personnages qu'il mettait en scène. Et nous, on buvait un petit peu les paroles des parents sur ces histoires qui étaient toujours empreintes de beaucoup d'humour. Quoi que ce soit qu'il se passe, mon père avait gardé cet humour et jusqu'à la fin pratiquement, alors que sa vie n'a pas été, comme on dit, un long fleuve tranquille. Mais il a toujours gardé jusqu'au bout de sa vie cette forme d'humour-là qui nous a tous, mes frères et sœurs, qui nous a tous marqués et qui nous est resté. Et ma mère, pareil, exactement.
C'est souvent chez les gens les plus humbles et qui ont quelquefois qui connaissent des drames même, qui a le sens de l'humour le plus développé par rapport aux gens qui ont tout et qui n'arrêtent pas de se plaindre.
Mais à ce propos, justement, il y a une anecdote. Lorsqu'il y a très longtemps de cela, mon père avait été interviewé par Memona à Fidji à une époque où il y avait l'ORTF, je crois. Elle était venue sur le village de l'Entre-deux et puis elle avait interviewé mon père qui avait traversé une période, disons, politique relativement difficile avec un curé qui était en même temps maire du village et qui était
l'opposant.
C'était dans les années 50, 50-60. C'était la première fois qu'on voyait un père maire, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la fois à la mairie et à l'église et qui faisait exactement ce qu'il voulait.
À l'entre-deux.
À l'entre-deux, exactement. Et mon père s'était dressé contre lui pour des raisons diverses, quoi.
C'était donc Camillo, alors un peu.
Pratiquement, non, Camillo et Pépone. Et ça a duré de 45 à 59. Le jour du départ de ce curé qui était devenu maire du village et qui est reparti avait été accueilli, disons, à bras ouverts par une grande partie de la population, à laquelle il a fait beaucoup de bien, bien entendu, et puis qui est reparti pratiquement sous les huées, entre deux.
Ah ouais.
Dans sa traction avant grise, là, il est reparti sous les huées en 1959.
Je crois qu'on a eu la même chose à la Ravine des Cabris, juste possible. Chez les voisins de l'entre-deux, de l'autre côté, avec un curé également, à l'époque.
Et sauf ce curé, effectivement, il a fait beaucoup de bien à beaucoup, à une grande partie de la population, mais mon père avait toujours été, chaque année, il y avait un procès entre le curé, qu'on va surnommer Père du Barbin, mais c'était pas son nom, entre le curé et mon père. Et donc, chaque année, il y avait toujours des histoires. Le curé nous coupait l'eau, il coupait l'électricité, il nous privait de l'église. On était obligé d'aller à l'église à Saint-Pierre ou ailleurs, quoi. Tous ces opposants politiques, c'était pareil.
Mais c'était quoi le motif? C'était politique.
Le motif, c'était opposant politique, c'est tout. Voilà. Mais il faisait ce qu'il voulait. C'est quelqu'un de très très intelligent, hein, le curé en question. Mais il avait d'ailleurs une formation d'avocat, de juriste en tout cas, et puis. Lors des procès, mon père avait beaucoup de mal à se défendre. Donc il a passé une période, une décennie et un peu plus, en fait, à se défendre contre le curé du jardin. Et à la fin de sa vie, lorsque justement Memona Fidji l'avait interviewé pour lui demander de parler un petit peu de cette période-là, il a dit je n'aime pas trop en parler, parce que à certains, ce curé a fait beaucoup de bien, à d'autres, il a fait beaucoup de tort, il a causé beaucoup de tort, mais en tout cas, il faut laisser les morts dormir en paix.
Alors, voilà, la sagesse, hein. Voilà, c'était un curé un peu à la Debré, on va dire. Hein. Donc, il a fait du bien, mais il a fait aussi du mal.
Beaucoup de mal.
C'était une époque où les curés à l'église disaient « ne votez surtout pas pour
tel. » Exactement, ils avaient leur mot à dire, et tout le monde les écoutait. Voilà. Ceux qui étaient admis à l'église, en tout cas, parce que celui-là, il fermait la porte de l'église à qui était son opposant politique.
Il avait le droit de fermer la porte.
Je crois qu'il s'octroyait ce droit, parce que je crois qu'il était en même temps conseiller général, et il avait un tel charisme et une telle autorité que finalement beaucoup de gens le craignaient.
Voilà. Ça rappelle un peu le père Payette à Saint-Leu, hein, qui a été embêté par Monseigneur Aubry à une certaine époque, et qui était un monsieur formidable. Il a fait un livre d'ailleurs également,
oui,
le père Payette.
Hein, oui, exactement.
Voilà, c'est des curés de choc, qu'ils soient à droite ou à gauche, c'est des curés de choc. Alors on ne peut pas s'empêcher de les aimer, quel que soit son parti politique.
Ils ont de la gueule.
Hein.
Il était de choc.
Voilà,
oui.
c'est bien. Alors donc, Jean-Louis Payette, le IABCD, j'étais en train de feuilleter le bouquin, alors de A jusqu'à Z. Alors évidemment, on parle de la boutique chinoise, mais là aussi, avec des anecdotes, et puis un sens de l'humour extraordinaire. Moi, il y a un truc que j'ai aimé, je cite des exemples pour encourager les gens à acheter le bouquin.
Hein. S'il vous plaît.
Si on demande aux gens, et on a demandé à notre ami Roger, un Payette également, il connaissait pas l'expression, hein, pourtant c'est un créole de souche, qu'est-ce que ça veut dire casser la pompe?
Casser la pompe.
Pas casser les cuilles.
Il y a beaucoup de choses que l'on casse ici à la Réunion. Casser les cuilles, déjà, c'est déjà un sport local. Hein. Casser les cuilles, ça veut dire vraiment embêter les autres, on va dire, entre guillemets.
Casser les cuilles, on connaît.
Mais casser la pompe, ça veut dire simplement vomir, quoi. Mais je préfère l'expression casser la pompe au mot vomir qui lui-même déjà me ferait vomir.
Voilà.
Il y a d'autres expressions dans casser. À la fin de sa vie, en fait, on casse la moque ou on casse la cuillère, quoi. Voilà, c'est ça.
Il y a même dans les chapitres, hein, de A jusqu'à Z, donc, hein, il y a également des chapitres où il y a une petite,
une exergue,
parole de chanson,
en exergue.
Voilà, par exemple, jeu d'eau, c'est une question d'équilibre, Francis Cabrel, voilà. Vous mettez des petits trucs comme ça de chansons, et puis avec des chansons quand même, je dirais pas récentes, mais qui font partie du patrimoine quand même, voilà, à partir des années 70, d'ailleurs.
J'abuse un peu de Jacques Brel, d'ailleurs, je crois, là-dedans.
Oui, on doit avoir un peu les mêmes goûts musicaux. Mais... Non, mais parce qu'il y a des gens de notre âge, hein, on peut le dire, qui quand même ont des goûts très, très, très rétro. Hein.
Ça remonte
beaucoup plus loin.
Oui.
Et moi, je me dis, si on devait aller un jour dans une maison de retraite ou dans une EHPAD, mon Dieu, épargnez-nous de passer encore les chansons d'avant-guerre.
Exactement.
Parce que là, on a l'impression qu'il y a un malentendu avec les jeunes, ceux qui sont jeunes maintenant, par rapport aux gens qui ont 70-75 ans.
Voilà. Mais quoi qu'il m'arrive encore, moi, de redonner des chansons que ma mère aimait beaucoup et de Tilo aussi. Pas toutes, mais pas avec sa voix, parce que on n'aime pas, mais on l'a beaucoup aimé à cette époque-là. Vraiment, c'était une idole absolue. Et ma mère était vraiment en admiration devant ce chanteur et devant ses chansons et sa voix. Et donc, elle fredonnait parfois, rarement, mais elle fredonnait parfois des chansons qu'elle aimait beaucoup. Et ça m'est resté. En fait, ce qu'elle aimait, ça m'est resté aussi. Et ça m'arrive encore de fredonner ces chansons-là. Mais je n'ai pas de goûts musicaux particulièrement attachés à une époque, en fait. Ça peut aller vraiment. Ça peut... Mon père, par exemple, était fan d'une chanson, fan, c'était pas un mot qu'il utilisait, bien entendu, d'une chanson très ancienne qui s'appelait la chanson du blé d'or.
C'était
un grand classique. Il l'a chantée. Et nous, on en rigolait, parce que quand on est adolescent, forcément, ces chansons-là, ça ne nous parle pas, quoi. Maintenant, ça me revient. Et je trouve que vraiment, il y a, pour l'époque, en fait, les paroles étaient extraordinaires, et la musique aussi.
Vous avez jamais pensé vous-même, Monsieur Payette, à chanter dans un groupe comme les Pat Jones qu'on entendra tout à l'heure ou d'autres, non ?
Non, merci. Non, en fait, je suis très content parce qu'en fait, j'ai pas fait l'étude musicale et je ne suis absolument pas musicien, mais je suis ravi de voir que tous mes enfants le sont. Et de la belle manière, je veux dire, et c'est vraiment très bien. Ça, je suis absolument ravi de cela. Voilà.
Alors, je note un truc. On va passer d'ailleurs à propos de musique, justement, un air alors que j'adore également, qu'on passe souvent à Radio Sud Plus, un grand classique de Nino Ferrer, Le Sud. Se rapporte à La Réunion, en fait. Lui, il a pensé à la Nouvelle-Calédonie, hein, vous savez.
Oui, ou à l'Italie, comme il dit dans sa chanson. Oui.
Et voilà, et bon, ça m'a toujours fait penser à La Réunion, puisque c'est l'époque où, avec ma femme réunionnaise, on est arrivé.
Ouais.
Et c'était une chanson qui se rapportait vraiment vraiment également à Lille. Oui. Le sud de Nino Ferrer, c'est inoubliable, inusable, et on peut l'écouter 5000 fois, on s'en lasse pas.
Et puis il y a des accents de musique country que j'aime beaucoup. En fait, c'est un petit peu ça, de la country. En fait, c'est un petit peu, ça découle un petit peu de cela. Et puis les paroles sont, j'allais dire, elles sont justes, et en fait elles sont un rien mélancolique aussi. Mmh. Et on va dire qu'il y a, c'est un petit peu d'actualité, parce que c'est comme si on était en train de jouer avec les guerres qu'il y a actuellement de par le monde, de jouer avec un bonheur qui existe, ou qui a existé, et qui est très fragile et qui risque de disparaître. Voilà,
c'est un petit peu ça. On écoute le Sud, Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, une million d'années, et toujours en été. Plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend, une million d'années, et toujours en été.
Yeah.
en été.
Donc le sud de Nino Ferrer, une chanson avec des paroles voilà, bien en phase avec ce que vous aimez et la lucidité de Nino Ferrer. On aura d'ailleurs l'occasion tout à l'heure de passer aussi John Lennon, mais enfin bon, à la fin de l'émission. Alors on va commencer par l'épilogue. Alors c'est marrant parce que on n'est qu'à la page 48 de ce livre.
Ah, c'est l'épilogue d'une des histoires de ce livre.
Voilà. Non mais c'est trompeur parce que quand on prend le bouquin comme ça en feuilletant, je rappelle qu'on est avec Jean-Louis Payette, le Yabécédaire, hein, le Yabécédaire qui a été édité par l'UDIR, et vous êtes bien sûr sur Radio Sud Plus pour cette interview, parce que après Roger va me dire, mais il faut pas oublier de dire que vous êtes sur Radio Sud Plus, hein, ben oui, c'est sûr. Yabécédaire, donc, dans l'émission Page en Partage, et on salue notre amie Sophie encore une fois, qui est absente actuellement, mais qui est donc la vraie animatrice de cette émission. D'accord. Et donc la présentation, on a vu l'histoire de Monsieur Payette, l'histoire à travers lui de l'entre-deux, des anecdotes qui se passent à l'entre-deux, et je citais l'épilogue en milieu de bouquin qui est l'épilogue en fait d'une des histoires, voilà.
Exact.
Alors ce qu'on peut faire, c'est raconter, enfin si vous voulez lire un morceau d'une de ces histoires, je vous repasse le bouquin avec les marque-pages, et puis vous allez lire vous-même un extrait de ce livre.
Oui, alors j'avais choisi un extrait de d'une fête à La Réunion dans les années 50 en tout cas, et qui continue jusqu'à maintenant, qui était la fête du jour de l'an, en fait, qu'on appelle jour de l'an, bien entendu.
Parlez bien près du micro, simplement.
Jour de l'an,
pas.
Oui, j'y suis. Et donc, c'était une fête jusque dans les années relativement récentes, en fait. On ne fêtait pas le jour de l'an le 31 décembre, on le fêtait véritablement le 1er janvier, à midi. Et là, on réunissait effectivement toute la famille, tout le monde était là, et c'était vraiment l'occasion, du matin jusqu'au soir, d'une grande réunion familiale, tous âges confondus, et voilà, et c'était la fête avec toutes les petites histoires qui vont avec, quoi. Voilà. Donc, le jour de l'an est le jour que l'on attend tout le reste du temps, car il va tourner une grande page raturée, barbouillée, et effacer comme par magie tous les déboires, tous les coups de conque, tous les boubous de l'année qui s'achève, et sonner le départ vers mille et une félicités, comme si on avalait cul sec un élixir d'oubli de derrière les fagots célestes. Voilà.
Voilà, donc c'était un extrait, je vais reprendre le livre parce que ça m'aide un petit peu pour l'interview, parce que, bon, exceptionnellement, je vous l'avouerai, normalement, dans cette émission, on a un principe, c'est de lire le livre avant d'inviter la personne. Et là, vous faites une exception, parce que je n'ai pas
eu le temps de lire après
le livre, et donc je dois l'avouer honnêtement au lecteur, hein, c'est pour ça que ça a l'air peut-être un peu improvisé. Alors, le jour de l'an, qui est écrit J-O-U-R-D-L-A-N, voilà. Et avec là aussi, alors une citation, c'est marrant, parce que vous mettez des citations au niveau de chaque chapitre, « Les années rient de la peau, renoncer à son idéal, rire de l'âme. » C'est beau, Douglas MacArthur.
MacArthur, exactement, oui.
C'était donc
un général américain.
Américain.
Voilà.
Alors, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est au-dessus du chemin de ceinture. Alors, moi, ça m'a fait penser tout de suite à un truc un peu égrillard, parce que vous habitez à l'entre-deux. Alors, voilà. Au-dessous de la ceinture, c'est l'entre-deux, et au-dessus, il y a le chemin.
Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai changé un petit peu pas mal de noms. Hein, c'est pas le premier livre que j'écris. Le précédent date de 7 à 8 ans à peu près, et que j'avais intitulé Pont Léo en yabri.
C'est vrai, ben je ne savais pas
Pont
ça.
Pont Léo, voilà. Et donc, c'est le nom que j'ai donné au village, qui est effectivement le village de l'entre-deux, chacun le reconnaîtra. Mais j'ai changé les lieux, j'ai changé le nom des gens, j'ai changé énormément de choses, que sinon, je ne sais pas si j'aurais encore traversé les rues de l'entre-deux.
Quelquefois, il y a des gens qui se regardent. Ah, si l'ancien curé de l'entre-deux est encore de ce monde et qu'il lit le bouquin.
À ce propos, je dois dire, puisque je voyais le bouquin là, sur vos étagères, de Jean-Michel Raffestin, et le titre, c'est « Ne leur pardonnez pas ». Eh bien, ce curé, en partant, ce curé dont je vous parlais, là, qui avait exercé à la fois en tant que maire et en tant que curé sur la commune de l'entre-deux, il en a été chassé, pratiquement, et en partant, il a laissé un souvenir que seul le temps a détruit. Ça veut dire qu'en face de l'église, dans un terrain vague, en face, il a fait ériger une grande croix blanche sur laquelle il a écrit « Pardonnez-leur ». Et cette croix, elle est restée très longtemps. Seul le temps l'a détruit. Hein. Elle n'y est plus, cette croix, mais elle est restée des décennies encore en face de l'église.
C'était quand même un symbole religieux. Donc à La Réunion, on respecte tous les symboles religieux. Même ceux qui n'aimaient pas le curé, ils ne pouvaient quand même pas casser la croix. Non, voilà. Ça ne se fait pas. Alors, les éditions UDIR. Alors, vous me parliez de votre premier roman. C'était il y a 8 ans.
À peu près.
C'était diffusé en librairie parce que honnêtement, je ne le connaissais pas.
Simplement, j'ai eu le tort, entre guillemets, je n'avais pas d'autre solution à l'époque que de le faire éditer par les éditions en métropole, j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Des éditions
Livre,
à compte d'auteur.
Édilivre, voilà. Non, c'était pas à compte d'auteur. Hein. Édilivre me proposait justement des conditions relativement correctes. Mais étant donné que c'était un livre écrit moitié créole, moitié français, avec beaucoup d'expressions en créole, ça a été très difficile, contrairement à ce que l'UDIR a fait ici. C'est-à-dire qu'il y a eu un comité de lecture à l'UDIR, des gens qui s'y connaissent, qui sont repassés sur des expressions, etc., qui ont refait des mises en page, ce qui n'a pas été le cas chez Édilivre. Ça veut dire que ça a été livré, ils m'ont fait confiance, entre guillemets. Et donc il y a eu quelques erreurs de mise en page, quelques erreurs d'expression, pas mal d'erreurs qui ont fait que... Bon, le livre est paru quand même,
voilà,
et puis ça n'a pas été véritablement suivi.
Vous en avez eu un certain nombre d'exemplaires, vous en avez commandé à Édilivre d'exemplaires, puis vous en avez encore en stock.
Il y en a encore, mais chez Édilivre, on peut toujours les commander, à la FNAC
on commande quasiment.
Il me semble chez Amazon également, C'est édité chez Édilivre et ça s'appelle Pont Léo en Yaburi.
Pont Léo, voilà.
La Yaburi étant le pays que, voilà, que j'ai
baptisé comme
ça. Intéressant
quand même, on peut le commander chez vous éventuellement.
Éventuellement, oui, bien sûr.
Alors, par contre, les éditions UDIR, c'est Jean-François Samelong.
Absolument.
L'UDIR qui existe depuis maintenant les années 70.
Exactement.
Et il y avait l'ADER, l'UDIR, et puis les éditions Les Chemins de la Liberté à l'époque, toute une époque. Et l'UDIR, elle continue avec Jean-François Samelong. Et donc toute une équipe, effectivement, comme vous le dites, qui peut corriger même le créole des gens sans se tromper.
Ça a été très judicieux, ce qu'ils ont
corrigé. Ils sont très exigeants, il faut le dire quand même, au niveau édition, ils n'acceptent pas n'importe quoi.
Également, vous voyez l'image de couverture, on a eu des tractations pendant pas mal de temps pour essayer de trouver une image de couverture, et on est passé par 5, 10 projets différents, et celui-là, est justement, au dernier moment, quand j'en pouvais plus, j'ai fait la photographie d'un tableau que j'avais réalisé il y a pas mal d'années, sur la petite cuisine de chez Nini, une petite case de l'entre-deux, et donc c'est le tableau que j'avais réalisé il y a beaucoup d'années, et puis je lui ai proposé ça, je lui ai dit est-ce que ça peut marcher, donc voilà ça. C'est devenu l'image de couverture.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que vous êtes également artiste peintre.
J'ai délaissé les pinceaux.
Quand je suis venu vous voir, j'ai vu des peintures. Vous êtes dans un cadre magnifique dans les Hauts de l'Entre-deux. C'est formidable.
Hein. Oui. Mais je crois que l'Entre-deux, depuis quelque temps, est vraiment très très connu et très apprécié. Alors que lorsque je reviens à mon enfance ou à mon adolescence, lorsque je suis allé à l'internat du lycée de Saint-Denis et que j'étais complètement paumé, il n'y avait que la route des plaines ou la route de la montagne pour y aller. Eh bien, quand je disais à mes copains, à mes nouveaux copains que je venais de l'entre-deux, ils me disaient « Où ça il est ça ? Où ça il est ça ? Je ne connais pas. » Alors que maintenant, tout le monde sait où ça se trouve.
Et puis, ça reste quand même un village, c'est pas bétonné comme malheureusement beaucoup d'écarts de La Réunion qui sont complètement défigurés. Alors, donc ça parle un petit peu de tous les aspects de la vie et de tous les personnages qu'on peut trouver dans un village. Je peux peut-être vous refaire citer un petit extrait également du livre.
On reprend. Lequel je choisirai, je ne sais pas. Écoutez, dans le village, en fait, il y a beaucoup de Ladila Fé. C'est ce que disent beaucoup de gens, en tout cas. Je n'arrive pas à retrouver
la page. C'est une spécialité de La Réunion.
De La Réunion en général, mais d'un peu partout dans le monde entier, j'imagine. Mais ça fait un petit peu partie du folklore de l'entre-deux. Mm-hmm. Donc en principe, lorsque la personne était fâchée ou allait se fâcher, elle disait, ça c'était dans les cours de récréation, casse-t-i-doigt. Ça veut dire, on s'accroche le petit doigt comme ça, et dit, on ne se parle plus. On casse-t-i-doigt. Voilà. Donc, les fâcheries à Pont-Léo, ailleurs, je ne sais pas, Les Fâcheries, donc, sont une entreprise très sérieuse qui demande de la part des acteurs et figurants un grand sens de l'inobservation, un fer-blanc de mauvaise foi, une oreille inattentive et une langue qui bat bien, une mine de rien, une lorgnette avec un petit bout de chaque côté pour regarder dedans, un crachat pour s'y noyer, une joue de fesse à gratter et l'autre qui démange. L'art de la question innocente, le plaisir de voir patauger les autres dans des matières indicibles et la faculté de se prendre très au sérieux en proférant une de ces phrases « Mais aime pas les commérages. Moi, je n'ai pas fâché avec personne, moi. Hein, mais dis à vous. Mais elle l'a dit à moi, dis pas, personne. Alors répète pas. Hein, il regarde pas moi, mais. Quand ça, elle l'a dit à vous ça? Où? Quand? Hein, bon Dieu, punis à moi. C'est la franche vérité. Il mentit pas avec vous.
Voilà, un nouvel extrait du livre, donc il y a le Yabécédaire de Jean-Louis Payette aux éditions Udire. On peut le trouver un peu partout en librairie.
Oui, en librairie, la librairie, je pense que je peux la citer, la librairie Autrement, à Saint-Pierre, Saint-Denis également, et puis la FNAC.
La FNAC voilà. et Autrement.
Autrement.
Il y a la Nouvelle Colombe aussi au tampon qui est toujours ouverte aux auteurs et
aux livres. J'en parlerai à lui dire, effectivement.
Oui, il faut aller les voir parce qu'ils sont très très bien. Ils accueillent les auteurs, même pour une journée entière, et ça booste un petit peu les ventes pour tous les auteurs de La Réunion. Ouais. Et ils sont très sympathiques, voilà, ils peuvent vous prendre des livres également. Au tampon, c'est difficile, hein. Les libraires actuellement vivent quand même une période très difficile. Parce que déjà le livre, malheureusement, les gens lisent moins. Les jeunes s'attachent plutôt aux livres, aux mangas ou à des livres jeunesse, des bandes dessinées. Et c'est pas évident, surtout quand on fait du roman plus généraliste. Cela dit, bah, y a encore des libraires, des vrais libraires qui font leur boulot, c'est-à-dire qui vendent pas seulement des gommes et des crayons, mais également des livres, même si ça rapporte moins. Faut dire que les libraires aussi ont ce problème-là, c'est que, elle me le disait, la dame de la Nouvelle Colombe, encore avant-hier, il gagne moins parce que pour nous, auteurs, on va dire que le libraire, il prend quand même 25 à 30% sur les ventes, sur le prix du livre. Mais il gagne quand même beaucoup plus en librairie et puis il y a quand même pas mal de soucis d'organisation quand on voit le nombre de livres qu'il y a. On a l'impression un peu qu'il y a de plus en plus d'auteurs et de moins en moins de lecteurs. C'est votre impression, monsieur Payette
C'est possible. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à écrire. C'est vraiment relativement lent, mon écriture, puisque j'ai délaissé le stylo ou le crayon noir. En fait, j'aimais beaucoup écrire le bruit du crayon sur le papier, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai délaissé tout ça pour l'ordinateur, qui est vraiment un outil formidable, je trouve. On peut sans cesse revenir, corriger, refaire des passages, etc. Mais il me reste quand même ce goût de l'écriture à, je ne dis pas à la plume sergent-major, bien que j'ai appris à écrire avec cette plume sergent-major, mais avec l'écriture sur papier. Ça me manque un petit peu, mais bon, c'est pas...
C'est les ratures, après on ne voit pas, on n'a pas le souvenir de ces erreurs, de ces ratures,
des
reports de textes, comme sur les vieux manuscrits des écrivains célèbres, qui valent une fortune.
Je ne suis pas là. Mon ordinateur ne traversera pas les siècles, je ne crois pas.
Mais quand même, c'est un progrès, le traitement de texte, il faut reconnaître, on ne peut pas le nier. Par contre, l'intelligence artificielle, ça fait un petit peu peur.
C'est un grand point d'interrogation au-dessus de ma tête. C'est au-dessus de nos têtes, je pense, mais c'est un progrès que je salue, mais comme tout progrès technique, technologique, informatique et tout le reste, mais je crains toujours les apprentis sorciers, comme on dit, ceux qui sont en marge et qui vont profiter d'une invention nouvelle pour, entre guillemets, assouvir leurs instincts.
En fait, c'est ça. Le problème, c'est que Amazon a une plateforme qui est super pour les écrivains. Vous parliez d'Edilivre. Edilivre, c'est un peu l'ancienne méthode, on va dire. Mais eux, ils font carrément, on peut soi-même, si on s'y connaît un petit peu sur le traitement de texte sur Internet, on peut soi-même faire son livre sur la plateforme d'Amazon. D'accord. Et ensuite, ils le tirent... au nombre d'exemplaires que vous voulez, totalement gratuitement. Après, ils vous le revendent le nombre d'exemplaires que vous voulez. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait des auteurs très qualifiés en matière d'intelligence artificielle qui pouvaient éditer jusqu'à 3 ou 4 bouquins par jour. En faisant simplement, en mettant quelques mots sur, sur leur, ordinateur, et c'est l'intelligence artificielle qui faisait le livre pour eux.
Mais alors, je continuerai, moi, à être l'artisan du livre. Je pense que je continuerai avec les méthodes à l'ancienne, encore une fois, sans revenir au crayon ou à la plume sergent-major, mais je continuerai avec les méthodes anciennes, et même si on peut qualifier d'ancienne l'ordinateur un peu antique que j'ai, quoi, voilà.
on va revenir un petit peu au temps longtemps à travers... nos amis les Pattes Jaunes, un groupe formidable, donc du tampon à l'origine, je crois.
Oui.
Et donc les Pattes Jaunes.
Pleine des cafres.
Des Pleines des cafres.
J'aime bien parce qu'il y a un moment où l'un d'eux qui avait été interviewé, je crois qu'ils avaient été en Écosse ou en Angleterre en tout cas, et ils avaient découvert les Highlanders. Et ils disaient qu'eux aussi sont des Highlanders. Ils sont des hauts, forcément.
Oui,
des gens des hauts.
Voilà. Absolument. C'est formidable de voir la culture réunionnaise de tous les genres de culture, de musique qui va dans le monde entier, que ce soit de Daniel Warraud jusqu'aux Pattes Jaunes, dans des styles totalement différents.
De Ziska Khan ou Baster, etc. Voilà.
Bon. On peut avoir une pensée aussi pour Jean-Pierre Lasselve et Jean-Max Labonté, qui est toujours là, mais bon, les Gratte-Fil autrefois également, qui avaient fait beaucoup pour la musique des hauts.
Je sais, ils étaient venus, lorsqu'on avait encore un gîte, mes frères et moi, sur le plateau du Dimitil, ils étaient venus une soirée là-bas, les Gratte-Fil, ils étaient venus chez nous.
On va écouter les Pattes Jaunes.
Les Pattes Jaunes, s'il se souvient.
S'il se souvient.
S'il
se souvient bien.
S'il se souvient bien.
N'avait la lune, il faisait frais. Vie causait pas, un peu maussade. Chaque mot de mon cœur l'était bien vrai.
Vie languait pas, petite manière. Vie croyait pas ce que m'y disait. Et pourtant, moi, l'était sincère. M'y faisait tout ce que m'y pouvait.
Faire pleurer, vos yeux les rouges, écoute à moi, mien m'avoue, vie connaît bien, mon cœur y bouge, pour vous tout seul, et ça l'est doux.
Ça va dire moi, toute votre parole, c'est un bonheur, y écoute toujours, mon petit chien-chien qui fait la folle, et qui fait mal, mon cœur d'amour.
Pas votre cœur, reste tranquille, vous les jolis, mais qu'est à vous, quand vie pleure pas, dans votre famille, c'est vous la fleur qui batte tout.
Aster m'a dit, ou quelque chose, allons marier, pardonne à moi, mi peut pas vivre sans votre bec rose, nous sera tout seul, nous.
On retrouve Jean-Louis Payette avec son Yabécédaire. Vous êtes sur Radio Sud Plus, c'est l'émission Page en Partage. Et alors là, on va aborder finalement ce qui vous a amené l'inspiration pour ce livre, Monsieur Payette. L'inspiration vient bien sûr de personnages qui ont donc réellement existé pour la plupart.
Absolument, Et qui ont disparu depuis, soit dans le village de l'Entre-deux, donc de Pont-Léo. Je pense à des gens qui ont traversé ma vie, qui ont traversé le village également, et qu'on ne revoit plus. qui sont remplacés au fur et à mesure par d'autres personnages tout aussi marginaux et intéressants, si vous voulez. Mmh. Et dont le dernier, par exemple, que l'on recherche toujours d'ailleurs, qui a disparu du village depuis à peu près un mois, et on a l'impression, vu les circonstances de sa disparition, qu'on ne le reverra pas. Le cacard, on ne le retrouvera sans doute pas. Voilà. Donc ouais. Ça fait un mois qu'il a disparu du village. Et il y a d'autres gens qui reprennent le relais. Donc je pense, encore une fois, à des personnages qui m'ont marqué dans ce centre du village de l'entre-deux qu'on appelle le lieu dit Lamar, où il y avait les boutiques. Et les boutiques, il y avait les buvettes, forcément. Mm-hmm. Et c'est là que tout le monde se réunissait, tous les gens du village se réunissaient pour, entre guillemets, parler de leurs affaires, de leurs projets, et un peu, peut-être aussi, refaire le monde derrière un petit cardrome. Voilà, c'était important.
Alors, ces personnages, vous voulez en évoquer quelques-uns, ou lire un extrait de texte?
Pour les personnages que j'aimerais évoquer, en fait, il y a ceux que j'ai côtoyés sur mon village de l'entre-deux, mais également sur Saint-Denis, en fait, là où j'étais à l'internat pendant pas mal d'années, et où les dimanches et certains jeudis, on sortait, donc, et on avait certaines figures locales que l'on croisait comme ça. Donc quelqu'un qui me revient vraiment très souvent en mémoire, c'est Henri Madoré, qui était qui sévissait, si je puis dire, au coin du rond-point du jardin, à côté du bar où nous, les internes du lycée, on se réunissait le dimanche parfois, ou le jeudi. Et lui, il était là, vraiment avec son visage et son allure très typique, oui. Madoré, ses cheveux mi-longs, son chapeau cow-boy, ses lunettes noires. Il était relativement bien mis, et puis il crachait partout, il chantait un peu, il grattait la guitare, et c'était oui. ça, quoi. Voilà.
Comment il était perçu à l'époque dans la rue, par les passants?
Quand même marginal, mais quand même respecté, quand même respecté. On ne se moquait pas de lui, on l'écoutait, mais on n'aurait jamais, moi en tout cas, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait autant marqué les esprits et traversé les âges. Voyez, mmh. Il y avait lui, il y avait un autre personnage que je côtoyais, qu'on voyait également dans les rues de Saint-Denis, mais celle-là, on l'appelait T14, et c'était une clocharde. Elle était vraiment, elle hantait les rues de Saint-Denis, surtout aux alentours de la cathédrale de Saint-Denis, et elle était toujours, elle était en haillons, elle portait un méchant sac et des vilains vêtements, et elle avait un foulard noué autour de la tête. Et on l'appelait T14, mais il fallait pas croiser son regard, ou ni lui faire une réflexion, parce que là, vous étiez, complètement, oui, vous n'étiez pas entier.
Les gens en avaient un petit peu peur, alors.
Un peu, mais c'était également quelqu'un.
Elle a laissé un souvenir.
Elle a laissé un souvenir d'autant plus important qu'il y a, je crois, un abri SDF à Saint-Denis qui porte son nom. Je crois que c'est son vrai prénom, c'était Léonie ou Léonce ou quelque chose comme ça, quoi. Et il y a un abri SDF qui porte son nom.
C'est drôle, c'est des personnages, on a l'impression quand même, sans être chauvin, que là ça se passe, que c'est comme Paris, on est dans la capitale, c'est Saint-Denis.
Exactement.
Les personnages de ce genre qui habitaient à Saint-Denis, on s'en souvient.
Voilà.
Ceux qui habitaient dans le sud, moins.
Un peu moins.
Vous n'avez pas connu par contre au port Mlle Paula.
Ça nous faisait. Bien entendu. Nous, on n'osait même pas en parler, on en rigolait, bien entendu. On n'osait même pas y aller, parce qu'on était adolescents, on était à Saint-Denis, elle était au port. Mais l'histoire de Mlle Paula, ça a traversé vraiment, les générations. Elle y était avant qu'on arrive, nous adolescents, mais elle y était encore après. Mais c'était un personnage que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai toujours entendu parler.
On a fait une chanson, c'est Michou qui a fait une chanson.
Exactement.
Alors justement, tiens, ça me fait penser, il y a des trucs un petit peu coquins dans votre livre aussi.
Il y en a pas mal, oui.
Peut en citer un ou deux, allez sur Radio Sud Plus.
On
n'est pas censuré, je pense.
Il y a quand même... il faut que je retrouve ça.
On peut le faire lire par les enfants, votre livre, ou alors il y a quand même...
Je ne sais pas si c'est à mettre entre toutes les oreilles ou dans toutes les mains. Mais je pense que c'est un mot qui est suffisamment... Voilà. Le mot dont je parle, en fait, il désigne avant tout le sexe de l'homme, réunionnais. On le chantait autrefois, roulé dans la cendre, tandis que sur les braises grillaient les chouchoutes. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est véritablement, ça fait partie du folklore réunionnais. Ça, j'ai entendu, je crois que c'est le groupe folklorique réunionnais qui le chantait également, quoi. Voilà. Notre folklore nous indique également que celui molle d'Anatole l'a resprit dans la moque en tôle. Cela montre que naguère, on savait s'amuser d'un rien et que l'imagination de certains était sans limite.
Elle a attiré donc de l'abécédaire de Jean-Louis Payette qu'on peut trouver en librairie au moins, à Autrement, à la FNAC,
la FNAC oui.
Et bientôt peut-être dans d'autres librairies, au Tampon. Oui, à l'Entre-deux, il y a une librairie à l'Entre-deux.
Non.
Pas, c'est, ça manque non, quand même une non, petite librairie. Mais il y a la médiathèque qui est très bien.
Il faut
leur donner un de leurs, enfin, ben, ou leur vendre un de leurs livres.
Hein. Le problème, c'est que, bon, je leur laisse un livre, mais le problème, c'est que si ça n'est pas à compte d'auteur, en fait, on ne peut pas. En fait, c'est Ludir qui doit se charger, c'est-à-dire la maison d'édition qui doit se charger de le mettre là-bas en dépôt.
Alors, oui. C'est très varié selon les maisons d'édition. Hein. Il y en a qui peuvent absolument pas. Oui. C'est l'éditeur qui fait tout,
oui.
Et l'auteur n'a même pas le droit de vendre des bouquins lui-même, quelquefois.
Oui. Oui.
Mais lui dire, il y a quand même une certaine liberté.
Oui,
vous pouvez acheter des
absolument,
livres
oui,
et faire, par exemple, dans les salons.
C'est ce que je fais.
Voilà, parfois. Être sur un stand. Il y a le stand de lui dire, évidemment.
Aussi.
Vous vous retrouvez de temps en temps, peut-être dans les salons à Saint-Paul ou ailleurs. Vous retrouvez vos collègues également qui ont édité à lui dire, on pense à. À plusieurs d'entre eux et d'entre elles.
Oui, hein.
Peggy Lou Garbal, entre autres, qu'on fait un gros bisou si elle écoute l'émission.
J'ai eu l'occasion et le plaisir de la voir au Parc du Colosse, à Cambuston, ainsi qu'à à Saint-Pierre, donc cette grande manifestation littéraire qui a eu lieu récemment, dont j'oublie le nom d'ailleurs. Bon, enfin, bon.
Et puis Jean-François, Athéna.
Hein. Athéna, voilà, je parle
d'Athéna. Et Jean-François Samelong lui-même, qui a fait un magnifique roman récemment. Alors justement, c'est sur
sur
le
les Kervegen, je crois.
Hein,
c'est sur la dynastie Kervegen.
Voilà. Il a imaginé des Kervegen qui existeraient encore de nos jours. J'en ai parlé déjà, je crois, à Johnny Lebon quand il est venu pour présenter son propre livre, il y a quelques semaines. C'était une belle idée également de Jean-François Samelong des Caves, parce que imagine cette famille qui a finalement elle a pompé la Réunion au 19e siècle.
Elle n'a
pas
aussi.
Amené, je veux dire, quelque chose. Ouais. Il y a des grands personnages.
Elle avait tellement de richesses, je crois qu'elle avait été l'une des seules à avoir l'autorisation de faire sa propre monnaie, en fait, la famille Kervegen.
Et puis, ça n'a pas profité à Lille du tout. Alors, on peut dire, même ceux qu'on veut déboulonner maintenant, ils ont quand même amené des choses dans Lille. Mais eux, ils ont vraiment tout pompé. Et c'est bien que Jean-François ait pensé à moucater un petit peu.
Les Kervegen, ça me fait penser aussi à l'histoire de mon arrière-grand-père, en fait, qui avait racheté, lui, une partie de la propriété des Kervegen qui partait de la marine de Vincent d'Eau jusqu'à la crête, par Camouton. Des immensités, vraiment, et que mon arrière-grand-père il a fait sa richesse un petit peu là-dessus aussi, mais il l'avait racheté au Kervegen. Et pour la petite histoire, sur cette propriété, il y avait l'église et la cure de Vincent d'Eau. Et c'est là qu'on retrouve également le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, le curé qui avait, entre guillemets, sévi à l'entre-deux, et qui avait commencé... j'allais dire à œuvrer du côté de Vincent d'Eau, et il avait également laissé des traces de son passage là-bas, à savoir que il avait fait rénover l'église entièrement, il avait rénové la sacristie entièrement et à son goût, et il avait présenté la facture au propriétaire, c'est-à-dire à mon arrière-grand-père, qui l'avait trouvé un petit peu salé, cette facture, quoi. Et il s'est empressé à ce moment-là, mon arrière-grand-père, Thipierre, pour ne pas le nommer, il s'est empressé de revendre effectivement la propriété à la commune, ce qui fait qu'il n'avait plus, cette fois-ci, à supporter toutes les charges que lui imposait le père du jardin par ses exigences.
Ah oui, je parlais de notre ami Johnny Lebon, qui vient de sortir un livre sur la saga des Lebon. Est-ce que vous-même, vous avez pensé à faire la saga des paillettes, justement aller très loin dans le passé, parce que finalement, il y a plusieurs branches, c'est compliqué par rapport... Je crois qu'il y a beaucoup de livres généalogiques déjà qui sont parus sur les principaux noms de la Réunion, les paillettes, Grondin, Nativelle, tout ce qu'on veut, mais... après, il y a des branches, c'est un peu compliqué
Bien sûr,
c'est compliqué. Est-ce que vous avez réussi à voir ?
Pas vraiment. En fait, je suis remonté vers un ancêtre, en fait, un aïeul à moi, qui a été le premier, alors que l'entre-deux n'était encore que la cinquième section de Saint-Pierre, aux alentours de 1840, il a été le premier à être adjoint spécial de l'entre-deux. et il s'appelait donc Vital Waro. Et il était le premier également à accorder une concession pour la construction, pour le cimetière, pour la construction d'églises, etc. 1840. Et ensuite, lorsque l'entre-deux en 1882 est devenu commune à part entière, c'est un autre Waro, Corneille Waro, qui est devenu le premier maire de l'entre-deux.
Waro, donc des Waro là.
Waro. Mmh. Là, on remonte au Waro, mais dans mes ancêtres, on va retrouver également des Derveillés.
Ouais.
D'Hervé, Payette et Waro, surtout. Voilà.
Voilà. Et puis peut-être aussi des anciens esclaves,
oh, certainement.
Comme ça a été le cas chez les Lebon.
Certainement, parce que mon père, en fait, était typé africain ou malgache. Hein. Il avait les cheveux crépus. Il était plutôt mat de peau. Mais il avait les cheveux crépus, donc l'origine, elle était facile à trouver, quoi, voilà.
Alors, il y a un aspect aussi, c'est les élections. Alors, de A jusqu'à Z, le livre. Hein.
Oui.
Alors, on ne va pas tarder à terminer l'interview, mais on ne peut pas le faire sans aller à la lettre Z.
Alors,
il y a les élections et les oreilles aussi.
Je vais aller
mais
vers les élections.
Mais il y a plein de mots qui commencent par Z, en créole.
Les
élections, il faut peut-être parler un petit peu de ces élections.
Oui. Alors,
élections longtemps. Moi, j'ai connu l'époque des broquettes déjà.
Eh ben voilà, on y est en plein, oui. Alors c'est Chirac qui disait il faut voter avec intelligence et non avec ses tripes. Voilà. Il manque à nos politiciens et rares hommes politiques d'aujourd'hui pour parfaire leur panoplie de campagne un petit objet qui, en plus de la feuille tôle, du sac ciment, du vote des morts, des promesses et menaces en tout genre, était essentiel à leurs prédécesseurs jusque dans les années 70, c'est la broquette. Ce sympathique petit clou de tapissier se retrouvait par milliers sur nos chemins de campagne électorale afin de hérisser les pneus de l'opposition autoportée et contrecarrer ainsi son plan de vote. La broquette, effectivement, on en utilisait beaucoup. Alors je rajoute que est-ce qu'il faut voir effectivement un hasard si la broquette a disparu de nos campagnes électorales, après que deux maires rouges aient été élus premier magistrat de deux communes, de deux saintes communes du Sud. Les broquettes, à ce moment-là, ont pratiquement disparu du folklore électoral.
Ah ouais.
Hasard, ouais. Coïncidence, je ne
sais
pas.
Ou alors peut-être qu'après, comme beaucoup de gens ont eu des voitures, ils se sont dit « non, on va pas crever nos propres pneus
». Exactement.
Mais il y avait quand même beaucoup plus de violence encore que les broquettes à l'époque.
Énormément.
Il y a quand même eu énormément de violence.
Mon père s'était présenté à un moment aux élections municipales. Bon, c'est son ami Marc-Alfred Waro qui a été élu maire après. Mais les violences que ça a entraîné une campagne électorale municipale sur l'entre-deux, comme dans beaucoup d'autres communes, c'était vraiment quelque chose qui faisait peur aux gens. Hein. Mmh. Énormément.
Voilà, donc Jean-Louis Payette, IABCDR, vous êtes sur Radio Sud Plus, on le rappelle, c'est l'émission Page en Partage. Et alors, bon, on a beaucoup parlé de choses et d'autres, hein, du temps longtemps, mais aussi du temps maintenant, parce que faut rappeler que le livre s'intéresse évidemment à une époque, à quelques décennies, mais également, ça va jusqu'aux années 2000.
Exactement, hein. Oui. Exactement, des histoires qui m'ont été rapportées et des histoires que j'ai vécues également, que dans les années 60 ou 2000, voilà.
Alors comment vous voyez un petit peu l'évolution de la Réunion par rapport aux années 50, 60 il y a du bon et du moins bon.
Il y a du bon, du moins bon, et puis je la regarde surtout, j'allais dire, à travers les yeux de mes enfants, parce que j'ai des enfants de, j'allais dire, mon aîné, elle a 50 ans, et mon dernier petit a 24 ans, et chacun a un regard un petit peu, j'allais dire, pessimiste sur le monde, surtout les derniers. Et donc, moi, j'ai traversé, comme en tant que baby boomer, si vous voulez, j'ai traversé la vie sans trop d'encombre, finalement.
Je suis passé au travers de
plein de choses, finalement.
Voilà.
Et eux, ils traversent beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer. Ne serait-ce que l'emploi, ne serait-ce que toutes les cochonneries qui traînent, et toutes les épidémies, toutes ces choses-là, toutes les menaces de guerre, les menaces en tout genre, en fin de compte. Ils traversent ça, mais j'allais dire sans beaucoup d'optimisme. Et c'est cet optimisme-là que je voudrais à nouveau leur insuffler en leur disant, on traverse effectivement chaque époque est troublée, simplement par des hommes qui focalisent un petit peu l'attention du monde sur eux. Je n'en citerai que... je citerai personne. Mais il y a des gens encore aujourd'hui, des chefs d'État qui sont... qui attirent sur eux vraiment l'attention du monde, ah bah, mais...
On en connaît trois ou quatre, là, voilà. Actuellement. Et...
Mais qui l'attirent pas de la forme la plus gentille ou la plus sympathique. Ils font peur, en fait. Mmh. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ils font peur. Mais le monde a traversé d'autres périodes qui étaient aussi troubles. Et j'allais dire, il s'en est sorti quand même. Mais j'aimerais bien que ce monde-là s'en sorte, mais sans les centaines de millions de morts que d'autres guerres ont pu causer. Mmh. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce que je voulais écouter également, c'est la chanson de John Lennon, Imagine, qui pour moi résume un petit peu, sans que ça soit vraiment de l'angélisme ou de quelque chose de bisounours, mais quelque chose de très fort finalement, que beaucoup de gens seraient bien avisés d'écouter et d'en comprendre vraiment le sens profond et les paroles.
On va terminer justement avec Imagine de John Lennon. Quelque chose à ajouter, monsieur Payette, avant de nous quitter? Vous êtes le bienvenu, de toute façon, vous pouvez revenir quand
c'est
vous voulez.
C'est gentil, hein. J'ai la clé, donc... Non, c'est très gentil de m'avoir accueilli, en tout cas, et de m'avoir permis de parler un petit peu de... à bâton rompu, de ces choses qui me tiennent un peu à cœur. Mmh, quoi.
Et c'est normal. Oui. Jean-Louis Payette, le Yabécédaire aux éditions de Ludire, que vous pouvez retrouver dans les principales librairies de Lille, ou commander, hein, si votre libraire ne l'a pas, vous le commandez à Ludire. Mmh. Voilà, et bah, c'est vraiment un superbe bouquin humoristique et qui rappelle vraiment une époque qui est passée, mais également notre époque et une évolution comme ça de la Réunion. Ouais. Merci, monsieur Payette.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
À bientôt.
À bientôt.
But I'm not the only one.